Allez, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel article du vendredi. Et aujourd'hui, on va mettre le nez encore une fois dans le Made in France. On attaque avec du lourd, hein, parce qu'on attaque avec Salomon, représenté aujourd'hui par Romain Berger. Salut Romain.
Salut Hugo.
Alors, t'es employé depuis quand à Salomon là? Ça fait pas très très longtemps.
Bah là, moi, du coup, ça fait maintenant, ça fait à peu près 7 ans que je travaille dans le groupe Hammer Sport.
Ah oui, parce que tu étais avec Sonto avant.
Ouais, c'est ça,
Et
ouais.
ouais.
En fait, donc ça fait 7 ans, je suis rentré à la base comme promoteur des ventes. Puis après, j'ai fait représentant, j'ai fait après plutôt key account manager pour la partie Suunto. Et là, récemment, je suis passé chez Salomon donc en tant que chef de produit pour la catégorie trail running. Et ça fait à peu près maintenant 2 ans et quelques mois. Voilà.
Ah ok. Alors de base, j'avais pas pensé tout de suite à Salomon pour le Made in France parce que vous en faites pas une grosse promotion. Donc vous avez un modèle qui est fait en France, c'est la chaussure Metacross, mais vous en parlez pas plus que ça. Pourtant, elle est à un prix abordable avec des qualités techniques plutôt correctes. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu?
Ouais, bah du coup effectivement, bah, comme tu le dis concrètement, du coup actuellement on a un projet donc qui s'appelle voilà qui s'appelle pas forcément Metacross. Metacross c'est le nom de la chaussure, mais en fait on a développé donc en collaboration avec Chamatex une usine en Ardèche qui s'appelle l'Advanced Shoe Factory 4.0. Et donc en fait cette usine elle vise à relocaliser la production de chaussures de trail running et d'outdoor du coup en France. Et en gros, ben pour tester cette usine, on a démarré avec un premier projet. Un premier projet qui est globalement l'adaptation d'un produit iconique de la gamme qui est la Speedcross. Et on l'a adapté en version Made in France. Et là, l'objectif en fait de cette chaussure, c'était avant tout ben, de comprendre l'outil industriel, de comprendre à la fois les possibilités, les contraintes, développer toute la partie qualité également. Parce que relocaliser sur le papier, ça peut paraître simple. Mais les savoir-faire qu'on a en Asie, ben, sont pas forcément les mêmes qu'on a aujourd'hui en France, vu que l'appareil en tout cas industriel, on l'avait perdu. Donc il y a eu ben, toute une phase comme ça, de mise au point. Et Metacross a été le premier produit. Et le premier produit arrivé sur le marché donc cette année. Pardon, c'était l'année dernière, on est déjà en 2024. Et donc en gros, on a une empreinte carbone globalement réduite de moins 25% dans cette première étape. Donc concrètement, qu'est-ce qui assemble en France, c'est vraiment bah, toute la partie assemblage final, donc les matières principalement de la tige. Donc on va parler de la matière du upper, donc c'est tout ce qui va être autour du pied de la chaussure. Et par contre, pour cette première chaussure qui était Metacross 1, la bottom unit, donc la semelle en fait, était importée d'Asie. Mais en fait, ne serait-ce qu'en important la bottom unit d'Asie, pour l'assembler en France avec des matières sourcées en Europe, donc par exemple du plastique sourcé en Italie, à Milan, on arrive à réduire l'empreinte carbone de 25%. Voilà, ce qui était déjà, on va dire, une grosse étape, une grosse première étape. Et là, l'idée, en fait, c'est que ça, maintenant, ça nous permette bah, de nourrir de nouveaux projets et de démultiplier sur la gamme dans les années à venir. Parce qu'en gros, l'objectif ultime de la société, enfin, ultime, qui est une première étape, c'est de réduire de moins 30% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et là, un des volets de ça, ben, c'est la relocalisation de la production et la production ben, au plus près des centres de pratique ben, pour permettre aux consommateurs en fait, ben, de bénéficier de produits qui ont été fabriqués à côté de chez eux.
Ouais, effectivement, cette usine, elle est à Ardoye, donc au sud d'Annonay, un petit peu au
Ouais.
nord de Valence, on va dire.
C'est ça, ouais, exactement, ouais.
Bon, là, tu as balayé déjà pas mal de questions que j'ai posées.
Pardon,
Mais.
non, bah c'est une petite intro, mais après, si tu veux, on peut.
La production automatisée, Romain, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que en off, tu me disais que c'était. Bah, en fait, tu crées un programme, tu le lances et. Et finalement, ça fait pas tout à fait ce que tu veux. C'est finalement, toi, tu as passé beaucoup de ton temps à débugger le truc.
Ouais, bah en fait, concrètement, une production automatisée, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, à la place de l'homme, y a globalement des machines. Donc ça, c'est pour résumer.
Ouais, là on
Et
voit
en fait,
l'usine classique, quoi, une chaîne de
ouais.
production, des robots, tac, ça bouge, ok.
C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut imaginer, je pense que tout le monde n'avait pas forcément conscience, c'est qu'aujourd'hui, la production de chaussures, et là je parle de 99,9% des chaussures, aujourd'hui en Asie,
Oui.
elle est faite sous un système de production finalement assez archaïque. Et quand je dis archaïque, c'est qu'il faut imaginer des lignes de production avec des employés qui vont effectuer des tâches.
Ouais.
Globalement, comme on l'a appris plus jeune avec le Fordisme, des tâches bien détaillées, et que la plupart de ces tâches sont très 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 archaïques. Et donc, par exemple, je vais illustrer une tâche, ça serait par exemple comment on fait la gomme. Donc toi tu as Vibram, nous on a Contagrip. Comment on fait par exemple le Contagrip sur une chaussure? On va globalement mettre dans une espèce de gaufrier une pâte en caoutchouc. Cette pâte en caoutchouc, finalement, elle va se mouler dans le gaufrier. Ça va ensuite donner une plaque que l'employé asiatique va venir coller sous la semelle et va venir découper au cutter pour enlever les différentes extrémités. Donc là, il faut imaginer, en fait, à chaque étape, finalement, de la production d'une chaussure, globalement, il faut compter une centaine de pièces. Il faut imaginer qu'à chaque fois, ces centaines de pièces, ça donne naissance, en fait, à un procédé qui est manuel, qui serait pas forcément autorisé en Europe pas ailleurs, parce qu'il y a des y a, il peut y avoir des choses assez potentiellement assez assez dangereuses, mais ils le
Ouais, ils s'en
maîtrisent bien.
foutent, eux, que les employés ils aient le cancer.
Non, après non, pour le coup, typiquement, il y a des certifications d'usine, et nous nos usines typiquement elles sont vraiment certifiées, il y a pas de souci pour ça. Enfin, je pourrais le détailler par ailleurs, mais on se refuse par exemple d'utiliser certaines technologies, par exemple de peinture, qui sont à la
Ah.
fois néfastes pour les employés
Ah oui.
Pour la planète, tout simplement. Enfin, du coup, pour l'homme, hein, in fine, parce que la planète, elle survivra à tout ça. Mais du coup, voilà, là, le but, en fait, avec l'Adventure Factory, c'était d'automatiser au maximum que possible les tâches qui pouvaient être automatisables et laisser, on va dire, ce qui doit être manuel, malgré tout, à certains postes qu'on doit conserver par des opérateurs qualifiés.
Ah oui, du
Voilà.
coup, il y a quand même une sacrée révolution parce que aujourd'hui, si on grossit un peu le trait, dans les usines, je sais plus moi, les Altra, je crois que c'est Vietnam ou Taïwan.
C'est le Vietnam maintenant, ouais.
Peut-être, ouais. Enfin, en tout cas, voilà, c'est par là-bas. Et donc, en fait, tu as des gens physiquement qui assemblent les trucs, qui les collent entre eux, etc.
Ouais.
Donc, tu dis si je désosse un peu ma chaussure avant de l'assembler, il y a quoi? Il y a 100 pièces face à nous à peu près?
Ouais, il y a plus de 100 pièces, ouais.
Putain, c'est
Il y a
monstrueux!
plus de 100 pièces, et globalement, là, avec donc, du coup, le procédé qu'on a chez ASF, donc on a
Ouais,
environ.
vous en fait, vous supprimez les humains, enfin le plus possible, parce que c'est des tâches un peu à la con, et
Ouais.
tu programmes un robot pour qu'il le fasse. Mais du coup, c'est une nouveauté en fait.
C'est ça, typiquement, il y a des robots pour tout ce qui va être en collage typiquement de la tige sur la bottom unit, parce qu'une chaussure, on va dire, c'est fait principalement en deux parties. Il y a la tige et puis il y a la semelle qu'on vient gluer ensemble. Donc là, pour le coup, c'est un robot qui va à la fois dispatcher la colle sur la semelle qui va venir englober. C'est à la fois le robot qui va venir pressuriser les différentes couches, en fait, comme il faut imaginer un sandwich, qui vont prendre typiquement le lining avec les différentes pièces plastiques pour tout complexer et en faire un ensemble dur. En fait, il y a un ensemble de tâches qui sont réalisées par des robots. Par contre, il y a des tâches, pour le coup, qui sont manuelles, qui sont pas évidentes. Et là, je pense par exemple à un procédé, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on appelle la mise en strobole. Donc, c'est en fait une tige. Faut imaginer qu'une tige, c'est un peu un montage à plat. Imaginez qu'une tige, c'est, tu peux, avant qu'elle soit mise en forme, c'est tout plat. Et ensuite, elle est mise en forme, en fait, sous ce qu'on appelle une strobole. Et là, en fait, il faut imaginer une couturière qui va venir, en fait, mettre à la fois le pied dans une forme qui ressemble à un pied et venir coudre avec un appareil à la main. Et ça, aujourd'hui, ce procédé, on peut pas le faire par un robot. On peut pas le faire par un employé qui est non qualifié, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à faire, qui nécessite énormément d'attention et d'expertise. Et c'est en fait pour tout cet ensemble de postes de travail qui sont finalement pas faciles à appréhender qu'au final, reproduire en France, ça prend du temps, parce que pour délivrer un produit qui répond à l'ambition initiale, qui est de réduire l'empreinte carbone et produire un produit qui soit intéressant pour le marché, ben, ça nécessite de l'apprentissage. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase d'apprentissage avant de démultiplier à partir de l'année prochaine.
Ah, ok, parce que par exemple, il te manque des couturières.
Là aujourd'hui, on a. Par contre, l'idée, c'est que ça. Parce que l'usine, elle est quand même relativement à taille réduite. Par contre, à l'avenir, qui dit production en France, dit à la fois formation de gens à des postes de travail qualifiés ouvriers.
Ah, ok. Ouais. Et c'est grossièrement, c'est des formations qui. Tu vois, si Hugo Ferrari veut postuler demain pour fabriquer des chaussures, il faudrait suivre une formation de combien de temps?
Alors ça, pour ça, honnêtement, je sais pas exactement. Ça, tu vois, pour le coup,
C'est
c'est
un
pas.
truc de 3 mois, 2 ans?
Ouais, honnêtement, bonne question. Ça, je sais pas trop, honnêtement, globalement, les formations pour ça, pour ce type. Voilà, ce que je sais, c'est que c'est pas forcément aujourd'hui facile à trouver. Je pense notamment pour passer sur une usine, notamment typiquement en 3-8. Travailler de nuit, il faut trouver des employés. Ces employés-là
Ah oui.
aujourd'hui sont pas facilement trouvables. Donc ça veut dire que finalement ça court pas non plus les rues. Et donc ben, là aujourd'hui on arrive à gérer parce que c'est malgré tout un projet encore une fois qui est pas à taille industrielle. Dire on produit des millions de paires, là on reste quand même sur des paires on va dire à volume assez artisanal malgré tout, même si c'est des milliers de paires. Et à l'avenir, ben, si ça se développe, il va falloir bah à la fois plus de main-d'œuvre qualifiée. Et aujourd'hui en fait ce qu'on constate c'est que il y a eu un transfert énorme hein, je veux dire entre la période globalement des 30 Glorieuses en France où il y a eu une industrialisation énorme de la France puis ensuite une désindustrialisation avec finalement l'Asie qui s'est accaparée un peu tout ça et qui est devenue l'usine du monde. En fait ce qu'on a assisté c'est que on a vu l'Asie et notamment la Chine qui est devenue un peu l'orfèvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, nous, tous les meilleurs produits qu'on a, je pense notamment au modèle S-Lab, ils sont faits en Chine parce qu'on a les meilleurs ouvriers globalement du monde pour trouver, enfin, en tout cas pour la confection de chaussures. Et ça ne s'arrête pas uniquement à l'univers de la chaussure. Et en fait, il y a une expertise énorme qui a été développée là-bas, qui est en train de se développer également dans des pays satellites d'Asie Sud-Est, parce que finalement, nous, ce qu'on a connu en plusieurs dizaines d'années, avec une montée en expertise des gens, une montée en éducation des gens, et donc une recherche de travail autre qu'un travail ouvrier, bah, la Chine, finalement, ils le connaissent en moins de 20 ans. Aujourd'hui, en Chine, il y a moins de gens qui veulent travailler en tant qu'ouvriers et qui demande plus d'argent. Donc mécaniquement, qu'est-ce qui passe? Les coûts augmentent, il y a moins de personnes, donc la production va ailleurs. Et on va dire qu'on garde la production pour tout ce qui va être produit à très haute valeur ajoutée, donc notamment les produits athlètes. Par contre, après, il y a un décalage pour tout ce qui est Asie Sud-Est notamment. Et donc là, l'intérêt aussi pour nous de ce projet, c'est de se dire, bon, mais en fait, peut-être que le sens du monde, c'est que ben, c'est finalement chaque pays, au fur et à mesure que ses richesses s'accroissent, l'éducation augmente, les salaires augmentent, et au final, en fait, ça ne devient pas forcément plus rentable, et ce n'est pas forcément meilleur, en tout cas, globalement pour la planète. Les réglementations vont évoluer à ce niveau-là, parce qu'au fur et à mesure, il va y avoir des réglementations qui vont imposer d'avoir un niveau énergétique assez bas pour être autorisé à vendre des produits sur le marché. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de prendre les devants. Et chez Salomon, en tout cas, on est précurseur, en tout cas, dans cette innovation qui est la relocalisation, en tout cas, de l'industrie en France. Voilà. Et surtout, j'insiste malgré tout, du sourcing en Europe. Parce que
Ouais.
produits assemblés en France, à tout, mais également une énorme partie qui est sourcée les matières. Donc là, quand je parle de matière, je parle globalement, ben, le Matrix, aujourd'hui, il est fait ben, chez Chamatex, hein, du coup, c'est à côté de l'usine. Mais également, il y a tout un tas de pièces plastiques que tu peux retrouver sur une chaussure. Comme je le disais précédemment, ça, tout ça, tu vas le retrouver principalement en Italie. Et là, actuellement, on travaille avec un fournisseur pour justement relocaliser également la partie semelle à la fois la mousse, mais également la semelle extérieure, donc effet de grippe, en Europe.
Ah ouais,
Donc
parce
pour l'idée
que...
d'avoir une chaussure 100% européenne, assemblée en France,
Oui.
et potentiellement plus.
Et sur cette semelle, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est le point bloquant, que c'est le seul truc que vous êtes obligé de faire venir d'Asie?
Qu'est-ce qui fait? Bah, simplement parce qu'il y a globalement personne qui fait de la semelle de sport
Ah ouais.
en Europe.
Ah
Non,
merde.
ça n'existe pas. Non, ça n'existe
Ok.
pas, ouais.
Et alors
Ça
du coup,
n'existe pas, donc en fait.
comment tu fais pour recréer... T'appelles des gens, ouais, vous voulez lancer une usine de semelles?
Non, ben, en fait, comme je te le disais actuellement, en gros, il y a un cadre réglementaire qui va s'installer avec la nécessité, ben, pour les entreprises d'atteindre, on va dire,
Ouais.
j'allais dire un quota carbone, on va dire, et un produit va être classifié selon une grille de A à D, où on n'a pas exactement les règles, hein. Donc tout ce que je dis là, ça reste un peu de l'intuition. Par rapport à la réglementation, mais on sait qu'il va y avoir une réglementation, on sait que les produits vont être classifiés, on sait que ça va s'apparenter globalement un peu comme un Nutri-Score avec des produits verts et des produits rouges, et que bah, pour prendre de l'avance sur ça, bah, l'idée c'est de tester, et c'est ce qu'on fait, quoi. Et en fait, mécaniquement, bah, ça permet de mettre en place une filière derrière, et donc bah, notamment au Portugal, vu qu'il y a encore des restes d'industrie là-bas. C'est là-bas notamment qu'on va voir pour toute la partie semelle.
D'accord. Et t'as pas peur qu'il y ait un concurrent qui te vole l'idée, qui te chope l'usine au Portugal avant les autres, par exemple, parce que tu vois, j'avais interviewé un Olivier Garibal là, sur l'huile d'olive, et par exemple, chez eux, le cœur du métier, en fait, c'est de trouver un moulin qui accepte de moudre tes olives, enfin, voilà, les presser, en nettoyant sa machine avant, ce qui est très très rare. Du coup, quand tu en trouves un, bah, les autres concurrents qui veulent faire de l'huile d'olive plutôt sain, eh ben, ils se jettent dessus aussi, tu vois. Donc il y a un vrai combat pour trouver le moulin, l'usine, quoi, qui va te le faire.
Ouais, bah après cette partie-là, globalement, je pense qu'on est tous acteurs de l'industrie. On est acteurs de l'industrie, et en tout cas, nous, notre point de vue à Sablemont, c'est que globalement, on est plutôt dans la collaboration avec d'autres partenaires,
Ah oui, parce
tout
que vous
autour de nous.
produisez des chaussures Millet aussi.
Non, enfin.
Ah bon?
On produit pas des chaussures millet. On va dire que le processus, en tout cas chez SF, il a été développé bah, par des équipes Salomon, et millet fait également partie prenante du projet au niveau investissement. Donc ils ont eu accès en tout cas à la ligne de production pour mettre au point des chaussures. Par contre, elles ont été
Ah.
mises au point sur un process développé en interne par Salomon.
Ouais, et elles sont plus en vente, là j'arrive pas à les... J'étais pas arrivé à les retrouver.
Ouais,
C'est le modèle
ouais c'est
intense, mais ils
les
ont pas
modèles
refait.
millet intense, ouais. Mais après, ça reprend exactement la toolbox en fait qu'on avait développée pour Metacross. Donc le upper globalement c'est le même, sauf que en termes de pricing ils étaient un peu plus haut. Ils avaient utilisé un Matrix Evo alors qu'on était sur un Matrix qui était un peu plus rêche, un peu plus outdoor, parce que l'idée c'était de vendre cette chaussure chez Intersport plutôt pour des néo-accédants à la pratique du trail. C'était typiquement pas fait pour un coureur comme toi, plutôt élite, plutôt en recherche d'un produit.
Alors justement, Romain, sache que j'ai un patriote qui court en Metacross. Alors pas seulement, hein, évidemment, il court avec d'autres chaussures de la gamme Salomon, mais il a une paire de Metacross. Et donc ce qu'il disait, c'est que bah, la chaussure, elle est pas mal. Hein, alors, de toute façon, vous la vendez 120 euros, donc on se doute qu'elle va
Ça.
pas avoir les mêmes performances qu'une Genesis. Alors moi, j'ai aussi été surpris par le prix que je trouve finalement très peu cher, parce que... Là, on est sur un Made in France par rapport à autre chose. Et il me disait, quoi, ouais, tu fais 20-30 bornes avec, bah voilà, sur un terrain un peu gras et tout, c'est sympa, quoi. C'est pas un gadget, quoi. On peut vraiment faire des petites sorties avec.
Ah ben, en fait, clairement, quand je dis elle s'adresse moins à un coureur comme toi, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent, parce que je m'occupe également quand même de pas mal d'autres chaussures, c'est que le marché du running, il a énormément évolué. L'argument numéro un aujourd'hui, quasiment pour vendre une chaussure, c'est le confort, l'amorti et le dynamisme. Et que ce confort, ce dynamisme, cet amorti, bah, il a été donné, Il a été permis, on va dire, par l'arrivée des nouvelles mousses, dont notamment des mélanges entre EVA et oléfine qu'on appelle infuse, et que on markete tout ça à des noms différents. Typiquement chez nous, c'est Energy Foam. Et en fait, ça, on a donné maintenant un nouveau niveau de standard de performance à un coureur, globalement. Par contre, la Metacross, je veux dire, elle a pas à rougir face à ce qu'on avait qu'on a démarré la pratique du trail. Hein. Enfin, moi, typiquement, je pense comme toi, on a démarré enfin, moi, typiquement, c'était en 2012, première ultra. À l'époque, ça courait un XAPRO 3D et ça permettait d'aller au bout de la course hein, sans souci. Mais c'est que maintenant, on va
D'accord,
dire
ouais.
que le monde, on va dire, du running et le marché du running a évolué et à des primes finalement assez attractifs. Globalement, autour de 130 euros, on peut trouver des chaussures avec des mousses assez performantes. Donc là, le challenge, c'est aussi de proposer finalement le produit avec les meilleures caractéristiques techniques pour l'utilisateur final ciblé. Et là, aujourd'hui, en l'occurrence, pour Metacross, l'idée, c'était de faire une chaussure qui propose un grip énorme, un très bon niveau de précision, mais qui puisse également être utilisée ben, pour différentes activités et pas uniquement du running. Voilà. Donc, c'est la chaussure, on va dire, excellente pour tout faire, mais pas forcément pour faire du trail en compétition.
Ouais, bien sûr, mais du coup, on peut à l'entraînement utiliser du Made in France sans
Clairement,
souci, ce qui est assez impressionnant hein, et qui, encore une fois, toi, tu travailles dedans, alors tu t'en rends peut-être pas compte, mais tous les coureurs, c'est très très rare quelqu'un qui connaît ça en fait. Pourquoi, Romain, alors j'avais interviewé Antoine Charvolin qui travaille chez On, mais c'était pas du tout pour parler des chaussures, c'était pour parler de sa deuxième place à la Saint-Élion. Mais tant qu'à faire, en fait, je l'avais interviewé quand il était en train de visiter une usine de On qui doit être à Taïwan ou au Vietnam, je sais plus. Et bon, on parlait de sa course, hein, bien sûr, ça n'avait rien à voir. Puis d'un coup, je lui dis, bah tiens, Antoine, s'il était allé voir justement les chaînes de prod, donc il était un peu nouveau dans l'entreprise, tu vois, il était allé voir comment ça fonctionnait les chaînes de prod. Et je lui dis, mais Antoine, là, ta chaussure On, elle sort, je sais pas, elle doit être, on va dire, environ à 200 balles. Pourquoi on peut pas copier le même bâtiment, les mêmes employés et tout? Parce que toi, tu as une chaîne automatisée, mais imaginons des employés français et faire le truc nous-mêmes en France, quoi. Et il me disait, bah le truc coûterait 1000 balles. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, globalement, c'est un achat de machine. C'est un achat de
Oui, c'est
machine et
vrai,
donc il
c'est vrai.
faudrait trouver déjà l'outil industriel qui permet de faire ça. Donc
Ah ouais, il est
l'investisseur.
pas sur Amazon, la machine.
Non, ouais, non, parce que en fait, c'est tout un tas de machines
Oui, c'est gros, oui, je dis ça en
qui
rigolant.
sont grosses. Ouais, c'est assez énorme. Hein. Je veux dire, non seulement pour faire des semelles, mais également des tiges. Et également, il y a également la partie malgré tout salaire. C'est pour ça que tout ce qui va être automatisation, ça va permettre, on va dire, à l'employé qualifié bah, de donner, on va dire, sa plus-value sur la plus haute tâche. Donc, c'est la celle qui est la plus difficile à industrialiser, mais on va permettre de rémunérer. Et l'idée, par contre, c'est d'automatiser tout ce qui est tâche avec la moindre plus-value, mais qui également, si on les industrialisait en France, bah, ferait qu'une chaussure, ça coûte pas globalement entre 130 et 200 euros, mais que ça coûte, comme l'avait dit Antoine, voilà, beaucoup plus cher. Après, 1000 euros, je ne sais pas, ça sera modélisé,
Non,
mais
mais
ce
je pense
qui
qu'il avait dit ça un peu à la
ouais.
va-vite, hein.
Mais ce qui est clair, voilà, c'est qu'aujourd'hui, la partie notamment salariale sera à prendre en compte, quoi.
Ouais. Tu nous as pas parlé, tu sais, aujourd'hui, je vois Nicolas Martin qui nous parle de ses chaussures Brooks et qui dit, bah voilà, en fait. Par rapport aux autres années, Brooks a beaucoup travaillé sur la gomme, entre la semelle et le reste, là. Et donc, selon lui, c'était très intéressant. Donc, on a les nouvelles mousses. Et on a aussi maintenant, donc tu vois, Altra a sorti un modèle, mais bon, c'est évidemment pas les seuls, avec une plaque carbone pour le trail. Est-ce que tout ça complexifie pas parce que tu disais déjà pour une chaussure, il y a 100 pièces là, à assembler sur l'outil de production, la chaîne de production. Et là, on rajoute des mousses. Est-ce que c'est plus compliqué, ces nouvelles mousses? Et le carbone, j'imagine, à intégrer, c'est plus chiant.
Ouais, bah en fait ça typiquement aujourd'hui là quand je te parlais de typiquement de relocaliser en Europe, donc ça l'idée c'est déjà d'aller sur des types de semelles quand même beaucoup plus simples, donc c'est-à-dire un monobloc avec une semelle extérieure avec voilà et une mousse. Par contre c'est vrai qu'en Asie bah, grâce à leur expertise c'est possible on va dire de créer des semelles qui sont pas uniquement avec un moule, mais qui peuvent utiliser bah, un, deux, trois moules qu'on pouvait un peu injecter typiquement des layers, enfin des couches pour mettre des plaques. Donc ça, aujourd'hui, c'est des procédés qui sont rendus bah, possibles par l'expertise asiatique. C'est des choses qui sont aujourd'hui quand même beaucoup plus difficiles à mettre en place, en tout cas en France. Mais l'idée, c'est pour ça que je te disais au départ que c'est là, on s'est engagé dans un long chemin. Et que ce chemin, bah, ça démarre déjà par par l'étape A. Cette étape A, c'est déjà de reprendre, on va dire, un produit qui était assez simple finalement à faire en Asie, de le travailler en France, et c'est ce qu'on a fait. Et là, l'idée, c'est d'avancer par la suite et de complexifier un peu plus les chaussures. Mais par contre, c'est vrai que voilà, l'exemple que tu dis, c'est
C'est
clair
celui qui va
que
revenir
c'est
en
clair.
dernier, quoi.
Comment?
C'est le modèle chaussure de trail,
L'eau de
nouvelle
gamme, ouais.
mousse avec carbone. C'est celui qui
Ouais.
reviendra en France en dernier, quoi.
Bah, ça, ouais, ça en peut faire partie, ouais.
Ouais.
Aujourd'hui, bah, le plus haut de gamme, ouais, a priori, c'est ce qui reviendra en dernier, ouais.
Ouais. Ok.
Ouais.
Tu disais que vous avez donc rapatrié. Donc la Metacross aujourd'hui, c'est. C'est maîtrisé, hein. Si je veux en acheter une
Ouais,
demain, il n'y a pas de
ouais,
problème.
c'est ça. Ouais.
Ouais.
Aujourd'hui, la Metacross, voilà, elle est disponible, donc on a un partenaire aux distributions qui est Intersport. Voilà, pourquoi Intersport? Bah, parce que distribution européenne, donc ça nous permettait bah, de respecter en tout cas notre cahier des charges, qui était de distribuer le produit en France et en Europe pour respecter les limites de l'empreinte carbone qu'on s'était définie. Et on peut également les trouver sur le site salomon.com ou dans les magasins partenaires. Et donc là, on va arriver donc avec un nouveau modèle donc bah pour la fin d'année. Petite surprise également pour les Jeux Olympiques. Et c'est véritablement à partir de Fall Winter 25, donc dans un an globalement, que là on arrive avec le projet finalement qui va être un peu la quintessence de tout ce qu'on travaille depuis maintenant quelques années en termes de solutions pour en fait, pour faire un peu notre part du colibri, mais sans encore une fois trop le revendiquer avant que ça soit vraiment au point, qui est de réduire l'impact de nos chaussures. Et réduire l'impact de nos chaussures, ça passe par bah, différents piliers. Un qui est assez logique, c'est la durabilité. Je veux dire, une chaussure qui dure longtemps, bah, c'est une chaussure que tu rachètes pas. Donc,
Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, ouais.
c'est la première étape. Enfin, j'allais dire, non, la première étape, c'est une chaussure que tu aimes. Parce qu'une chaussure que tu achètes qui est nulle, tu vas la laisser au placard et au final,
Ouais, tu vas en
qu'elle
racheter
soit
une autre,
durable,
exactement.
t'en rachètes une autre. Donc la première chose, c'est qu'elle donne le sourire. Et nous, on est, toi, tu vois bien, on est tous des passionnés. Le but, c'est vraiment de donner le sourire aux gens. Deuxième, c'est que la chaussure soit durable. Et troisième, en bout de ligne, on l'a quand même exploré maintenant depuis à peu près 3 ans, c'est la partie recyclabilité.
Ah
Donc,
oui, tiens.
en bout de ligne, ta chaussure, une fois qu'elle est bah, totalement usée, qu'est-ce que t'en fais? Et donc là, en fait, on a bah, déjà au point une chaussure qui était de route. On en sort une de trail là, dans du coup le 1er août, où il y aura d'ailleurs quelques annonces pendant l'UTMB. La première chaussure de trail recyclable. Et là, en fait, l'idée, c'est que tout ça, en fait, ça nous serve et qu'on arrive l'année prochaine assez près avec un concept. Mais qui apporte une vraie plus-value et qui inspire idéalement l'industrie tout entière. Voilà. Parce
Ouais.
que c'est un peu ça notre credo aussi, hein. Je veux dire, moi, mon rôle, c'est bah, c'est de regarder ce qui se fait, de tester des choses. Et bah, comme tout le monde, je suis inspiré par ce que les autres font. Donc,
Ouais, qui
typiquement,
c'est
bah,
qui
voilà.
recycle pas mal là aujourd'hui? Kylian avec ses normales, ça recycle ça, et puis Scott aussi, non?
Non, non, normal en fait. Enfin, typiquement, pourquoi normal aujourd'hui tu parles de recyclabilité ou de partie
J'ai pas
environnementale? C'est
trop
parce que finalement,
regardé.
ils ont une gamme assez réduite.
Ouais.
La gamme, elle est assez réduite. En fait, ça permet très facilement d'avoir un message de marque assez facile à comprendre. Et les messages de marque, c'est vraiment, en tout cas, faire des chaussures mieux pour la planète. Et ce que Normal a fait, en un, c'est vraiment travailler la durabilité.
Ah oui,
Et
elle dure longtemps.
ils explorent des scénarios de ressemelage. Ils explorent des scénarios également d'assemblage de chaussures, donc
Ah, ils le
en
font
plusieurs
pas.
parties pour interchanger. Comment?
Ils le font pas encore.
La chaussure, elle a été présentée, elle n'est pas encore sortie.
Ah, ok.
Elle n'est
Et
pas encore
Scott, il
sortie.
ressemelle pas? Et personne qui le fait, ça?
Cote, bah, j'ai pas
Ok,
vu. Nous,
ouais,
on
c'est
ressemelle.
trop.
Hein. Enfin, je veux dire, tu peux aller au magasin Salomon à Annecy,
Eh
t'amènes ta
oui.
chaussure, on te la ressemelle. Hein. Ça, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Par contre, c'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on démultiplie, parce que ressemeler une chaussure, en fait, ça va un peu durcir la chaussure, ça va enlever malgré tout des propriétés mécaniques.
Ah.
Et là, aujourd'hui, on est un peu en train de tester justement l'appétence des coureurs à cette solution. Voilà.
Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, tu t'as paniqué ton mèche et malheureusement, il n'y a plus de crampons. Donc,
Voilà. Mais ce que je te disais précédemment, voilà, c'est que l'idée, c'est un peu d'observer ce qui se fait. Nous, on est inspiré par ce que les autres font. Maintenant, l'idée, c'était non plus de pas non plus trop surcommuniquer sur la partie environnementale, mais
bah
d'arriver
ouais,
avec
franchement, je
un concept
trouve
bien ficelé.
que vous faites quasiment zéro pub alors que finalement, on a un produit made in France, quoi.
Ouais. Bah, c'est.
Pour l'instant, c'est léger quoi, en
L'idée,
termes
c'est
de
cool.
marketing.
Ouais, l'idée, c'est ça. C'était quand même de tester la solution, de la mettre à l'épreuve du marché
Ouais,
et
c'est
aussi
vrai qu'elle
d'être.
a que 1 an, cette
Ouais.
Metacross. Ouais.
C'est ça, ouais. C'est ça. Et puis se dire malgré tout, tu vois, ça reste malgré tout une chaussure parmi une gamme qui est finalement assez large et qu'on est assez honnête et qu'on n'a pas non plus envie de dire qu'on fait tout en France alors que finalement ça concerne un modèle parmi finalement plusieurs. Donc voilà.
Ouais.
L'idée c'était de se dire que tant qu'on n'arrive pas à un niveau de maturité qui est maîtrisé et assez complet. C'était de garder ce projet malgré tout assez pas confidentiel, mais de le communiquer dans les réseaux où ça doit être communiqué et de démultiplier par la suite, et comme je te disais, notamment à partir de l'année prochaine.
Ouais, parce que c'est vrai que bah d'ailleurs tu nous l'as tout de suite dit, en fait, le Made in France, finalement, bah t'as toujours le problème de la matière première qui arrive d'ailleurs. C'est comme quand tu veux
Ouais.
manger du chocolat, bah, tu peux pas manger du chocolat made in France parce que le cacao ne pousse pas en
Non.
France. Par contre, moi, je suis surpris que cette chaussure, ça réduise que de 25% son empreinte carbone. Je trouve que c'est assez peu. Qu'est-ce qui explique ça? Tu nous as dit donc c'est la semelle qui vient d'Asie. Ça vous met dans le jus, ça?
Ouais, bah en gros, typiquement, déjà, comment on
C'est le
fait, hein, je pense
gros
que ça
axe
peut être.
d'amélioration, ça?
Est-ce que c'est. Ouais, c'est un énorme axe, ouais. Ça, c'est
Ah
la
ouais.
partie de sourcing Europe de l'ensemble des matières premières et surtout l'aspect distribution. Parce que qui dit import dit du coup coût énergétique du transport, dit également coût énergétique de où la semelle est fabriquée. On n'a pas forcément le même mix énergétique entre l'Europe et l'Asie.
Ah oui, ils
Je
sont très
pense notamment à
charbon.
des solutions qui sont très charbon. Ouais. Et en fait, on va dire que tout cet inventaire-là, et pour démarrer un peu par le début, on le fait par ce qu'on appelle une analyse cycle de vie. Et donc là,
Ah
on
ouais,
passe
j'ai
par.
fait ça, c'est chiant.
T'as déjà fait, voilà. Ouais.
C'est
Bah, en gros, on passe
horrible.
par. Voilà. Bah, y a des gens qui le font pour nous. Et
Bah ouais,
donc,
non,
en
mais
gros, comme
c'est
ça, on peut.
hyper compliqué, hein.
Ouais. Et là, on travaille avec un prestat qui nous fait ça. Et donc, ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que la majorité de l'empreinte carbone, elle vient du transport, des matières, du mix
Ouais.
énergétique, et également de la durée de vie du produit.
Ah, c'est
En gros, il y a
intégré
une espèce.
ça?
Ouais.
Ah.
Et donc là, voilà, là, on est en gros à 25, moins 25% d'empreinte carbone. Mais encore une fois, uniquement avec la tige, parce que sur cette Metacross, c'est la semelle est importée, donc elle arrive en Ardèche, et c'est vraiment toute la partie tige qui est à la fois enfin qui est fabriquée et assemblée sur place et distribuée du coup à proximité, vu qu'encore une fois la distribution est française et européenne prochainement, ouais. Là, elle a été française, du coup, uniquement à la distribution, pour respecter justement ce cercle de 25%.
Ah,
Et en fait,
d'accord.
voilà. Ouais.
Et
Ça,
quand tu auras
c'est.
ta semelle faite en Europe, tu vas passer les 30% et c'est
Oh,
l'objectif de
ouais.
2030, c'est ça?
Ah, oui, ça. Bah, là, honnêtement, le. Honnêtement encore on n'a pas fait le calcul on n'a pas fait le calcul mais typiquement dans l'année cycle de vie il y a plusieurs façons de jouer sur les curseurs.
Oui,
Typiquement
oui, oui.
si on utilise une semelle par exemple qui est recyclable, la recyclabilité permet de bénéficier d'un bonus et donc
Bah oui, bien sûr.
de diminuer l'empreinte. Suivant quelle mousse tu utilises, il y a des machines qui sont plus ou moins énergivores et qui ont plus ou moins de déchets. Le déchet
Ah
est également
putain, ouais.
intégré dans la partie, ouais.
Ah oui,
Et
chaque mousse a une empreinte différente.
ouais, c'est ça, ouais,
Ok.
exactement, ouais. Typiquement, tu vois, les mousses là qu'on utilise pour les chaussures de car enfin les chaussures de course, les mousses
Les
Payback.
fantasmes.
Oui, ou d'autres chaussures du marché, hein, parce que ça utilise finalement les mêmes procédés. Ça, ces chaussures, c'est potentiellement les chaussures avec le plus haut niveau de rebut et donc d'empreinte. Là où à l'inverse, il y a des procédés de ce qu'on appelle de type plutôt injection, où là la partie empreinte carbone est réduite. Donc là, l'idée, voilà, on est en train de travailler un peu sur tous ces scénarios, bah, pour à la fois, bah, comme je disais en partie, hein, le critère numéro un, c'est de faire une chaussure qui permette aux gens d'avoir le sourire. On n'est pas là pour vendre de la culpabilité. Enfin, je veux dire. Le but, quand même, en courant, c'est quand même de prendre du plaisir. Donc ça, il faut être garant de ça. Deux, que la chaussure soit durable, donc qu'elle respecte les barres qualité. Et trois, effectivement, que l'empreinte soit là, quoi. Mais nous, on met vraiment ça comme la partie, malgré tout, cerise sur le gâteau. Parce qu'on a pu le voir, hein, je veux dire, le consommateur aujourd'hui, il vient pas acheter un produit uniquement parce que c'est made in France ou parce que l'empreinte, elle est réduite. On vit dans un
Ouais, faut que
monde
ça
où.
marche bien quand même.
Ah, il faut que ça marche, il faut que ça marche et tu le vois bien, hein, je veux dire, tout coûte malgré tout de plus en plus cher. Les salaires font pas forcément au même rythme que l'inflation et c'est important, voilà, pour nous de créer avant tout des produits performants et ensuite qui en plus de ça soit bon, quoi. Donc c'est pour ça qu'on y va quand même malgré tout un peu on prend notre temps parce que c'est pas quelque chose d'évident de lier les deux.
Oui, puis tu vas pas mettre en péril l'entreprise non plus, faut pas être suicidaire. Hein.
Non.
Parce que l'entreprise Salomon, elle fait travailler des Français quand même, donc tu vas
Ouais,
pas faire
clairement.
des choix directifs radicaux, sinon t'es un peu dans la merde. Ouais.
Ouais.
On se fait une petite pause, Romain, puis après on passe aux questions de la fin un peu plus marrantes.
Ouais, ça marche, pas de souci.
À de suite.
À de suite.
Alors, après cette petite pause qui m'a permis de refaire un café, Romain, on a bien compris que Salomon, voilà, vous avez ce petit objectif de 30% d'émissions en moins d'ici 2030. Donc, l'objectif futur, c'est cette petite semelle qui va être faite en Europe, d'autres modèles de la gamme qui vont être faits en France. Donc, tu nous dis, voilà, faut attendre tes prochaines annonces dans un an. Donc, on en salive déjà. À quand le très haut de gamme de Made in France? Parce que, par exemple, là, il y a pas mal de coureurs qui ont les Genesis et ils en sont ravis, hein, en termes de durabilité, comme tu le disais, de confort et tout. On a l'impression que là, vous avez fait une chaussure vraiment aboutie. Alors, moi, j'utilise pas des Salomon. J'ai le pied vraiment très large pour le coup, donc ça rentre pas. Hein. Mais. Est-ce que, voilà, non, plutôt ma question c'était de dire, parce que cet objectif de moins 30% en 2030, qui est quand même dans 6 ans, est-ce que ça concerne toute la gamme? Et toi, tu disais que c'était quelque chose, c'était pas défini encore comme quoi c'était obligatoire, mais en gros, vous anticipez en fait, en vous donnant vous-même cet objectif.
Ouais, c'est ça en fait. Déjà pour répondre à ta question, voilà, ça c'est l'objectif on va dire de la marque, hein. Donc moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2030. Et l'idée, bah, du coup, c'est d'explorer différents scénarios. Donc là, le scénario qui a été retenu, c'est relocaliser en tout cas la production au plus près des consommateurs. Donc, encore une fois, le Made in France, ben, c'est parce qu'on est une marque aussi française. Par contre, on est une marque mondiale. Donc, ça veut dire qu'une fois que le savoir-faire sera maîtrisé, le but, ça sera malgré tout ben, démultiplier ce qu'on fait en France, mais sur d'autres continents. Donc, l'objectif à terme, typiquement, ça serait de voir des usines comme on a en Ardèche, ben, aux États-Unis, en Asie.
Ouais, automatisé donc, c'est ça qui est important.
Ouais, automatiser. L'idée, c'est qu'il y a une vraie volonté de développer un nouvel outil industriel qui va révolutionner l'industrie de la chaussure. Parce qu'encore une fois, l'industrie de la chaussure, globalement, elle n'a pas vraiment évolué bah, depuis globalement qu'elle a été mise en place
Ouais, on a
dans les
gardé des
années
mecs
70.
qui, avec leurs mains, construisent la
Ouais,
chaussure, quoi.
voilà, ce qui s'est passé, c'est plus qu'il y a eu un transfert de pays, on va dire, qui étaient à la base en voie de développement ou qui sont maintenant très développé vers d'autres pays plus satellites, où la main-d'œuvre elle est moins chère, toujours pour accomplir ces mêmes tâches manuelles répétitives. Par contre, nous, l'ambition, voilà, c'était encore une fois en Ardèche, un peu, on va dire, le laboratoire de développement. La chaussure, c'était une première étape, là, en tout cas, Metacross. L'idée, maintenant qu'on a mis au point ben, les possibilités, qu'on sait les contraintes, c'est de démultiplier. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'il y aura une Genesis ou est-ce qu'il y aura une chaussure performante? Là, l'idée, c'est qu'on n'est plus sur le développement d'une chaussure voilà, qu'on va pouvoir découvrir bah, pour l'occasion des JO. Donc oui, il va y avoir une chaussure de running très haut de gamme prochainement. Et voilà. En
Ok,
gros,
okay.
qui
Putain,
va arriver du coup cet été. Par
ouais.
contre, encore une fois, nous l'idée, c'est malgré tout de faire de la volumétrie pour apprendre. Parce qu'en fait, globalement, pour être assez basique, mais ça fait de sens, plus tu vas faire des chaussures élite compétition, bah, déjà, souvent, plus ça va être cher, et aussi, bah, plus le potentiel de gens qui vont pouvoir courir avec va être réduit. Dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le voir, il n'y a pas que des gens autour de nous qui font de la compétition en course à pied. Et donc finalement bah, ces chaussures très race sont assez limitées en termes de quantité et nous l'objectif c'est d'apprendre encore une fois et d'apprendre en général tu l'apprends par les grands nombres typiquement
Ouais.
faire une chaussure made in France dans ton atelier pour en faire je sais pas une centaine c'est pas vraiment le défi qu'on s'est donné nous le défi c'était vraiment de mettre au point un outil pour développer et multiplier les quantités de façon industrielle. Et c'est ça qui a été complexe. Donc ouais, en gros, pour répondre à la question, ouais, ça, le bon 30%, c'est l'objectif. Une des solutions, bah, c'est développer des usines mettant en relation bah, le produit au plus près du consommateur. Et on a développé bah, un premier projet plus facile à prendre en main, mais on va se permettre pas des collaborations, mais des quantités plus réduites sur des modèles très haut de gamme, dont prochainement. Voilà.
Ok, ouais. Eh ben c'est. Putain, c'est. Je pense qu'il y en a plein, ils vont être sur le cul quand même, parce que beaucoup sont loin de d'imaginer tout ça. Et bah, juste pour faire un bilan sur Salomon, ça fait combien de temps que vous bossez pour sortir la Metacross 2, donc qui était en vente à partir de l'an dernier là? C'était combien de temps de travail en gros?
Bah en fait j'ai envie de dire maintenant ça fait parce qu'en fait il faut pas avoir des projets un peu séparés en silo en fait
Ouais.
ce projet-là il remonte à un premier projet qui était dans l'entreprise moi quand j'y suis rentré qui s'appelle projet Mesh donc projet
Ouais.
Mesh et tu te souviens c'était la chaussure tu sais un peu personnalisée à ton pied
Ah
tu
oui,
pouvais
c'est
acheter
vrai, ouais.
la chaussure chaussette que Kylian avait sur Sierzina le 2017, si je dis pas de bêtises. Et en fait, bah, si tu veux, le fait de faire des chaussures au pied des jambes personnalisées, bah, pour ça, on avait développé une machine. Cette machine, elle avait un petit nom, c'était la Desma. Et qu'en fait, enfin bref, qu'on a utilisé sur ASF. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, l'innovation produit, elle était géniale. En fait, mais le marché, à ce moment-là, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à absorber une telle innovation. Les mousses n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Le prix était cher. Bref, il y avait une autre vague qui était, enfin une autre tendance qui était plus forte. C'était le maximalisme, le confort. donc
Ah
avec une
oui,
marque
Coca en
vraiment
plus.
avec Coca. Et donc le projet n'a pas forcément rencontré de succès. Par contre, tout l'apprentissage qu'on a eu sur celui-ci, bon, on a pu le réintroduire chez ASF avec une usine qui permet d'automatiser un encollage, donc entre une tige et une semelle. Et également, il y a des projets comme je te parlais, voilà, qui notamment au niveau de la recyclabilité, par exemple, qu'on a démarré avec le projet Index. Donc là, maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que les chaussures sont sur le marché. Donc là, voilà, on a appris comment développer des chaussures 100% recyclables, tout en contournant des brevets posés par certaines marques, malgré tout. Et on a également voilà, appris à développer des chaussures, mais chez nous, c'est un basique. Globalement, typiquement, à titre d'exemple, dans toute la catégorie trail, les chaussures, il y a environ 30% de matière recyclée sur le upper. Donc, c'est vraiment un basique. C'est un basique qu'on ne communique pas
Ah oui, c'est vrai. Pas
parce qu'on
trouvé cette
pense que
info.
voilà, on peut faire mieux. Enfin, typiquement, je prends un exemple comme la Ultra Glide. La Ultra Glide, à date, il y a plus de 50% du upper qui est fait à partir de matière recyclée. Voilà.
Ah, quand même.
Par contre, globalement, quand tu le mets par rapport au poids total de la chaussure, ce qui a le plus d'impact, c'est la bottom unit, donc la partie semelle. Et du coup, ça représente que 13 et quelques pourcents du total du poids de la chaussure. Donc, en fait, encore une fois, tout est une question de nombre. Et nous, honnêtement, on n'est pas dans la position, enfin, on ne se veut pas être dans la position d'une marque qui claim un bénéfice, qui affirme un bénéfice environnemental, alors même que ça serait un bénéfice qui serait un peu marketing tiré par les cheveux, quoi. Après, certains le font, certains se trouvent des vertus environnementales alors que ça reste malgré tout des basiques de l'industrie, comme utiliser des matériaux recyclés. Nous, l'objectif, c'est plutôt d'affirmer une position dès lors qu'on aura la solution totale dans nos mains. Voilà. C'est plus, on va dire, l'esprit Salomon.
Ah, ok, mais du coup, il y a quand même, ouais, quasiment 5 6 ans, quoi.
Ouais,
Allez, on va
ça
dire
fait bon.
cinq.
Répondre à ta question, ouais,
De réflexion.
ça fait plus 7 ans, ouais, un peu plus 7 ans de tout ça, ouais.
Ah ouais, donc si demain en fait un de tes concurrents ouvre les yeux en se disant merde, je vais être coincé par la législation, il a
Ah
5 ans
ouais.
de retard, quoi.
Ah ouais. Ah ouais.
Et tu
Bah
crois
ouais.
qu'ils sont en train de faire la même chose ou...
Bah
Je crois pas du tout, hein.
honnêtement, moi je crois pas du tout, hein. Tu vois, j'ai quand même quelques copains,
Bah
bah
oui.
voilà, hein, chez des Oka, chez des Altra, chez des On. Pour le coup, c'est tout bête, hein, mais par exemple, là, la chaussure que je te disais qui va sortir du coup cet été, la première chaussure de trail recyclable.
Ouais.
Donc en gros, on arrive avec une chaussure à 160 euros qui va être plus performante qu'une chaussure qui est chez nous et la référence, on va dire la référence pour tout un chacun qui va acheter une chaussure à tout faire, qui est en gros la Sense Ride. Tu vois, c'est un peu notre modèle, voilà, on distribue le plus. Et la chaussure est plus performante et elle est recyclable. Mais qui dit recyclable dit une mousse qui n'est pas la même que celle que tu vas retrouver sur nos modèles, on va dire, classiques, ou ce que tu vas pouvoir chercher sur une Oka, sur une Altra, sur une Nike, sur une Adidas, qui sont en gros, comme je te disais, des mousses qu'on appelle Infuse, donc un mélange entre EVA et oléfine, permet à la mousse de s'expanser et d'être plus légère, plus amortissante et surtout plus résiliente. Et là, en fait, il a fallu travailler énormément pour définir à la fois une géométrie qui permettent à cette nouvelle mousse de donner des propriétés de running intéressantes. Travailler également les crampons, parce que les crampons, on est passé de crampons en caoutchouc en crampons en plastique. Et là, ça a nécessité de développer des tas et des tas d'essais différents pour optimiser la surface de contact et garantir à la fois une bonne accroche sur du caillou humide, dans la boue, dans du caillou sec et la durabilité. Donc tout ça, honnêtement, nous on a pris de l'avance et c'est pour ça qu'on le lance sur des projets aussi un peu satellites qui arrivent et qui sont bons. Mais l'idée, c'est de tester aussi un peu les retours marché là-dessus et pas que ça devienne notre unique bataille. Parce que comme tu le disais, il y a quand même malgré tout 800 personnes à Salomon et ces 800 personnes, elles travaillent avec malgré tout des produits plus classiques. Et une fois qu'on aura trouvé la bonne solution, on démultipliera, quoi. Mais ouais, si un concurrent décide de se réveiller comme ça du jour au lendemain, ça va être difficile de ça va être difficile d'arriver avec une bonne solution.
Et tout ça, du coup, c'est breveté, là, c'est cette géométrie de mousse dont tu nous parles, parce qu'il faut vous protéger, du coup, par rapport aux autres concurrents. Toi,
Non.
demain, si ça se passe mal et que tu démissionnes et que tu vas travailler chez Oka, c'est la merde.
Ouais, bah après, je pense qu'il y a une certaine notion de comment dire de respect quoi, de confidentialité. Après,
Ouais, parce que tu disais
dans...
que vous aviez dû contourner des brevets, donc c'est que d'autres marques l'ont fait pour certaines choses, quoi.
Ouais, voilà. Bon, après, voilà, je citerai pas la marque, mais c'est une marque en gros qui a trois bandes. Mais
Ah ouais. Mais tu peux, le Patreon étant privé, tu peux même raconter des choses fausses, tu ne tombes pas sous le coup de la loi,
bon?
quoi.
Non, mais voilà, mais concrètement, oui, il y a des marques qui ont protégé, on va dire, la partie recyclabilité d'une chaussure. C'est-à-dire aujourd'hui, par
Ah, ok,
exemple,
ouais.
nous, pour développer une chaussure recyclable, on a dû s'affranchir, enfin plutôt contourner des règles qui ont été mises par des concurrents qui voulaient protéger justement cette partie-là. Et nous, aujourd'hui, notre point de vue, c'est que c'est par l'union, on va dire, des forces qu'on va arriver à définir une meilleure industrie. Et c'est pas simplement en protégeant ça, c'est pas nous ça, là, Salomon, qu'on va changer la face du monde, quoi. Et moi, mon objectif, honnêtement, c'est que, au même titre qu'il y a des, encore une fois, hein, ce que je te disais tout à l'heure, qu'il y a des modèles qui m'inspirent et qui, je pense, qui peut être le futur, par exemple, ben, pour telle ou telle pratique. Je pense notamment voilà, à des chaussures comme l'Ultra Fly de Nike, la Tectonix de Hoka. Je les trouve très intéressantes pour courir sur des sentiers roulants. Voilà, tu l'as testé à l'EcoTrail de Paris. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément énormément de chaussures qui proposent d'être un beau mix pour aller faire de la route, mais en même temps faire des chemins assez faciles. Ça, c'est des bonnes pistes. On s'inspire de ça et ça, voilà, ça va permettre peut-être de nouveaux développements. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que demain, il y a des gens qui soient inspirés par créer des chaussures qui soient pas uniquement meilleures pour être meilleures, mais qui soient meilleures pour la planète. Et là, vraiment, moi, cette réflexion, enfin, en fait, je l'ai plutôt d'une industrie qui est pas la nôtre, hein, qui est plus celle du vélo. Aujourd'hui, dans l'univers du vélo de route, les pros courent en carbone. Pourquoi ils courent pas en alu? Ben, ils courent pas en alu parce que c'est plus un standard de l'industrie. Par contre, s'ils courent en alu, ben, malgré tout, ils finiraient quand même leur tour. Ils iraient peut-être un peu moins vite et la matière serait quand même plus intéressante d'un point de vue environnemental. Par contre, l'industrie est allée trop loin. Maintenant, c'est quasiment impossible de revenir en arrière, sauf si réglementation. Et en fait, nous aujourd'hui, je pense que dans le monde du running, on est encore à ce stade où, bah ouais, il y a des UTMB qui ont été gagnés et qui ont été parcourus avec des mousses EVA, donc des mousses malgré tout rigides, lourdes, peu résilientes, peu amortissantes. Est-ce que c'est nécessaire de tendre vers le toujours plus, comme est actuellement en train de vivre le monde, bah, plus particulièrement de la course à pied sur route, où il y a des chaussures de plus en plus rebondissantes, avec des plaques, etc. Donc on le teste. Par contre, on a également cette réflexion-là de se dire, et si il y avait un autre monde, une autre voie, et une voie en fait où tous les efforts de l'industrie, ils sont mis bah, pour une industrie plus propre. Et pas une industrie simplement plus performante de façon superficielle en dopant les performances des coureurs avec des matériaux toujours plus performants, quoi. Et ça, c'était vraiment le postulat quand même de base avec ça.
Ouais, puis finalement, en fait, les marques sont concurrentes à un instant T, mais si tu veux rapatrier, par exemple, ta production de semelles en Europe, peut-être que tu vas t'allier avec d'autres marques qui ont la même vision.
Clairement,
Parce
bah
que
ouais.
j'imagine que pour reproduire tout ça, il faut des ronds. Et là, on a besoin
Bah
d'alliés.
énormément, ouais. Bah, il faut énormément d'investissement. Et donc voilà, en tout cas, nous, on n'est pas partisans de protéger les choses pour les protéger. S'il y a certaines technologies qui sont protégées. Mais en tout ce qui concerne la partie environnementale, non.
Ok, ouais. Pour terminer rapidement, Romain, en fait, moi, je cherche aussi à interviewer d'autres gens qui font du Made in France. Et les informations sont dures à trouver. J'ai identifié deux marques. La French, dont j'ai pu échanger quelques mails avec, je crois que c'est Jérôme qui gère ça. Et Vitz, où j'ai pas eu encore de contact. Est-ce que tu connais ces deux marques?
Je les connais, ouais. Je les connais, enfin, la French, parce qu'on
Ah,
avait
la French, ils sont
discuté
pas loin de
ensemble.
chez vous.
Et du coup, ouais, je me suis renseigné. Et Vitz également, ouais, que j'avais découvert, ouais, plus dans des magasins spécialisés. Voilà.
Ok, ouais. Alors, de ce que j'ai compris, la French, en fait, ils ont une usine, enfin un atelier, je ne sais pas quel est le nom exact, à Romans-sur-Isère, et je pense que eux, par contre, n'ont pas d'automatisation, ils font tout à la main, donc je verrai avec eux. Est-ce que tu en sais un peu plus dessus?
Non, honnêtement, j'en sais pas plus sur la French.
Ok,
Je
ouais.
m'étais quand même renseigné. Après, si je m'étais un peu renseigné malgré tout sur ce qu'il y avait sur Romans-sur-Isère, et a priori, ouais, il y avait quand même une ancienne usine de chaussures. Donc,
Ouais, c'est
potentiellement,
ça.
voilà, les chaussures sont faites là-bas. Après, comme je te disais tout à l'heure, le fait de faire Made in France, enfin, malgré tout, il faut que la dernière partie de l'assemblage soit faite en France. Nous, c'est pas notre but ultime. Hein. Typiquement, comme je te disais, l'idée, c'est de faire du sourcing Europe, distribuer le plus proche des gens et d'aujourd'hui de produire en France parce que c'est ici qu'on a notre outil de développement. Par contre, si t'es on va dire une marque plus confidentielle avec des volumes plus réduits, voilà, ça peut être possible de trouver de la main-d'œuvre qualifiée, comme par exemple dans la Drôme, pour assembler des chaussures. Donc après, voilà, je connais pas l'entreprise. Par contre, après sur des volumes plus réduits, c'est possible de trouver ce genre de prestat.
Ouais, mais je t'enverrai quand j'aurai fait son interview. Là, Jérôme Soulard, mais il brasse, hein, il est peu disponible. Et pour Vitz, alors, j'ai pas d'infos après 2019, mais apparemment, leur atelier de production serait basé au Longeron, dans la communauté d'agglomération du Choletais, donc
Ouais.
plutôt nord-ouest. Donc là, on est plus loin. Ils font aussi un peu de recyclé, donc voilà, ça va être intéressant de les avoir. Mais encore une fois,
Ouais.
c'est vrai que La French et Vitz, bon, on n'en voit pas beaucoup, donc c'est beaucoup plus confidentiel que Salomon. Mais c'est pas mal, parce que tu vois, La French, donc le mec nous fera le storytelling de son entreprise, mais en gros, il s'est lancé en faisant des chaussures en Chine au début pour lancer sa marque, en fait. Et après, il a pu, avec du coup une entreprise un peu plus grosse avec les premières ventes, il a pu
Ouais.
proposer une chaussure en France, en fait. Tu vois, il a été obligé de passer par une étape comme ça. Donc,
Ok.
intéressant, ouais.
Non, mais intéressant, ouais. Puis bon, après, voilà. Moi, encore une fois, hein, nous, le ce que je trouve qui est intéressant là-dedans, mais malgré tout, qui manque un peu de normes, c'est que c'est assez facile, en fait, d'avoir des arguments marketing de type
Ah, vite, c'est
recyclé,
très fort pour ça, ouais.
France. Par contre, malgré tout, derrière, à mon sens, le juge de paix, c'est typiquement l'ACV. Aujourd'hui, c'est l'outil
Ah oui,
neutre
l'analyse de cycle de vie.
ouais, de cycle de vie. C'est l'outil, malgré tout, qui est réalisé par un tiers, qui est normé et qui permet de définir quelle est la plus-value environnementale du produit. Parce que, comme je te le dis, tu vois, utiliser des matériaux recyclés, nous, c'est un basique. On l'a sur tous les produits. On n'en fait pas pour autant. On n'en fait pas pour autant. Voilà, un discours marketing, parce qu'on sait que ça serait bancal, quoi, de faire ça.
Ouais, mais sans en faire un discours marketing, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une loi qui force les entreprises, quand tu vends ta chaussure, tu sais, là, ça se fait sur les voitures. Quand tu vois une pub à la télé pour la voiture, à la fin, tu vois combien elle consomme de CO2 ou je sais pas quoi. Ben,
Ouais.
pourquoi, quand tu vends une chaussure sur la page du produit, donc il y a le drop, il y a le poids, et paf, il y a le résultat de l'analyse du cycle de vie, tu vois?
Ben
Ça
ça
pourrait
c'est
être...
ouais, comme je disais, c'est potentiellement ce qui va arriver à
Ah ouais.
l'avenir, quoi. Et là, l'idée, c'est pour ça qu'on travaille sur des scénarios aussi de chaussures,
Ah, c'est pour anticiper.
ouais, on essaie d'anticiper, quoi. Anticiper, mais bon,
Ok, ouais. Eh bah
aujourd'hui, voilà,
écoute.
nous on claim pas. Donc après, ouais, honnêtement, des marques comme Vitz et tout, moi voilà, je fais comme un peu comme tout le monde, hein.
Ah,
J'ouvre la
c'est
page
beaucoup plus petit,
internet, je
hein.
regarde je les produis. Moi, je pense que c'est une marque française, c'est intéressant ce qu'ils font. Après, c'est plus l'accessibilité, on va dire, à une donnée qui est pas marketing, mais qui est purement objective et factuelle, qui est une ACV. Ça, elle n'est pas forcément accessible. Et malgré tout, c'est ça qui fait un peu le jus de pain à la fin, quoi.
Ouais, bah c'est pour ça que je pense que ce serait pas mal qu'on soit forcé de l'afficher, même s'il est mauvais, hein, c'est pas grave. Hein.
Et après, la partie également qui va être importante, c'est standardiser ces analyses cycle de vie. Je prends l'exemple, voilà, encore une fois, d'une marque comme Adidas. Ils publient souvent des chaussures avec des impacts carbone, notamment aux alentours de 2 kilos et quelques de CO2. C'est quand même très très bas. Par contre, il n'y a pas forcément la source vers le cabinet qui a réalisé ça. Et disons
Ah.
que nous, c'est un peu compliqué. Et en fait, de comparer, en fait, c'est plus que ça nous intéresse de comprendre comment les autres font. Mais ça, aujourd'hui, on n'y a pas forcément accès. Donc là, les instances réglementaires, ce qu'elles vont devoir faire à l'avenir, malgré tout, c'est standardiser les règles et permettre qu'une personne qui fasse un audit puisse reproduire le même audit chez un autre, de façon à avoir des classifications. Sinon, en fait, tu choisis ce que tu veux mettre en avant. Hein. Tu fais des scénarios de cycle de vie où tu dis que tu essaies de jouer sur les chiffres, tu vois.
Ouais, bah, j'avais bien vu quand j'ai fait ma formation de 6 mois, tu peux lui faire dire un peu ce que tu veux à l'analyse de cycle de
Ouais.
vie suivant comment tu le fais. Ouais. Faut qu'il y ait une
Donc là,
règle, une barrière.
on est qu'aux prémices encore de tout ça, quoi. On est encore qu'aux
Ah,
prémices.
c'est intéressant. Et bah écoute, Romain, je te remercie. J'ai pas d'autres questions. Alors après, si tu veux ajouter quelque chose qu'on aurait oublié de dire, n'hésite pas.
Non, bah après, globalement, encore une fois, ouais, c'était peut-être comme ouais, pour conclure le fait que voilà, bah, chez Salomon, c'est malgré tout, voilà, déjà de un une équipe de pratiquants, de gens passionnés et qui ont pour mission de développer les meilleurs produits pour donner le sourire aux gens, hein, concrètement. Nous, de développer une chaussure comme une Genesis, typiquement, ça a été. C'était vraiment un bonheur et de voir les retours consommateurs. Et la deuxième chose, malgré tout, c'est quand. On porte maintenant une attention toute particulière à la notion de durabilité. Donc là, de plus en plus, tout ce qui va être durabilité des chaussures, on va les pousser. Idéalement, un standard qu'on aimerait qui soit au-delà de 500 km, et comme on peut le voir, la Genesis atteint 1000 km sur de nombreux retours clients. Donc on sait que quelquefois, voilà, on peut aller sur des forums, sur Internet, on
Ah,
trouve
t'as
toujours des
toujours le mec qui a
personnes.
déchiré le mèche au bout de 150
Voilà,
bornes.
qui a encore une fois déchiré quelque chose ou qui a un plastique qui se décolle. Après, ce qu'il faut savoir, et j'en profite de le dire vu que j'ai la parole là, mais c'est que ça concerne un pourcentage infinitésimal de personnes. On est de l'ordre
D'accord.
de moins de 1%, et un problème qualité, ça peut arriver. Et donc là, pour un problème qualité, il y a des choses qui existent et ça, et ça prévente. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la totalité, on va dire, des chaussures, dès lors qu'on affiche un bénéfice qui est durabilité, c'est qu'il y a à peu près zéro souci dessus. Et la troisième chose, voilà, c'est qu'on travaille des scénarios pour l'avenir, et que ces scénarios pour l'avenir, on bâtit des échelons. On ne communique pas trop, mais encore une fois, dessus. Enfin, typiquement avec Metacross, on a eu des chaussures recyclables, il y en a une qui va arriver. Et l'idée, voilà, c'est d'apprendre, d'être sûr un peu ce qu'on fait et de délivrer la solution finale la plus optimale possible dès lors qu'elle sera fin prête à 100%, qu'on sera 100% confiant dessus, quoi. Et ça c'est plutôt en tout cas le leitmotiv de la société. C'est pas de faire du marketing pour du marketing, c'est vraiment de développer et de mettre sur le marché des produits qui ont une vraie utilité, une vraie raison d'être, et qui vont pas flouer les gens avec un mauvais discours, quoi. Voilà, et donc ça c'était aussi ça le but un peu de cette intervention, c'était de tout partager globalement le travail sur Metacross et ce qu'on travaille par la suite.
Ouais,
Et
finalement, tu nous
potentiellement
as fait
aussi.
un bel état des lieux de ce qu'il était possible de faire, ce qui va être envisagé, qu'est-ce qu'on a sous la main en France, etc. Donc, intéressant. Ouais. Eh
Voilà,
ben,
mais
je te remercie, Romain.
sinon pas plus, et puis volontiers, si tu veux. Courir avec des Salomon ont testé, justement, on a travaillé quand même pas mal sur le fit
Et le
des
pied
chaussures,
large.
notamment pour les personnes qui ont le pied large, avec des études avec notre département de biomécanique, justement pour mettre au point des chaussures qui vont non seulement proposer un fit qui est adaptatif à ton pied, mais également qui va pouvoir évoluer sur la distance. Vu que je sais que tu es un ultra-trailer, ce qu'on a pu voir, c'est que sur une course d'ultra-trail, le
Et
pied
oui,
avait tendance à augmenter.
ouais, il gonfle.
Ouais. Et ça, typiquement, on a une solution assez géniale qui arrive sur le marché l'année prochaine et que les plus curieux auront peut-être décelé sur les photos du running camp actuellement en Corse, au pied des athlètes.
Ouais.
Voilà, on arrive avec un concept de chaussures vraiment intéressant.
Ben
Voilà,
je Il y a quelqu'un
pour
qui
le
m'en a
coup.
parlé, mais je me souviens pas qui c'est, qui m'a dit, ouais, Salomon, ils vont faire un truc pour les pieds larges et tout.
Ouais.
Après, ça
Et...
semblait évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le pied large, donc il faut bien leur vendre quelque chose, mais... Mais ouais,
Ouais,
il
c'est
y en a un
ça.
qui m'en a parlé il y a pas longtemps, je sais plus qui c'était. C'était sur une course que j'ai dû animer dernièrement. Oublié. Eh ben,
Ouais.
merci Romain, et
Pas
on
de souci.
verra avec nos autres protagonistes, le Made in France. Salut.
Ça marche.